Bienvenue à 16-17 avec Fulgence Blanc au micro. Mathieu Tessier est revenu, il est en train de se manquer de ma voix là-bas, lui de l'autre côté de la console, de la régie. Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Alors là, il faut exercer plusieurs fois avant d'arriver à rire comme moi, hein, Mathieu. Hein?
Oui, non, je m'exerce, mais j'ai définitivement du travail à faire.
Tu vois, j'ai plusieurs façons de rire. Hein? Alors, c'est mardi, alors en début d'émission, c'est Myriam Larache qui va nous parler des différentes séries. Il y a d'ailleurs une série québécoise, Le Temps des Framboises, et une série sud-coréenne, Extraordinary Anthony Attorney Woo. Et puis, bon, 16h15, chronique culturelle avec Céline Laberge qui va nous parler des sujets, des incontournables, des journées de la culture. Il y a deux nouveaux albums à découvrir aussi, celui de Grand Corps Malade et celui de Daniel Lanois. Ce monsieur qui n'est pas vraiment connu à sa juste valeur, Daniel Lanois, franco-ontarien. Quand j'ai découvert son album Heavy Sun en 2021, il vient de sortir un tout dernier Piano Player. Seulement du piano, que lui. Voilà. Et puis, la disque, dévoilement des nominations d'artistes en compétition pour le prochain gala. Et à 16h30, Frédéric Parly, directeur général de l'exposition En Camp Parle-moi d'amour, PMA, 24e édition. Mathieu, je te demanderai après l'émission de me parler d'amour.
Après l'émission.
Allez, bonjour Myriam Larache.
Bonjour Fulgence Blas. Bon après-midi à tous nos auditeurs.
Merci.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Alors, ça rit. Ouais, ça rit en studio.
Ça rigole. Voilà. Alors, les séries, de quoi s'agit-il?
Oui, alors on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez bien présenté au début, de deux séries. On va s'y arrêter aujourd'hui. Le Temps des Framboises, une série donc québécoise, et une autre qui nous vient de la Corée. Mais commençons par chez nous, tout proche, n'est-ce pas?
Oui.
Alors,
oui, oui.
Cette série québécoise fait parler d'elle en dehors du Québec, et pas qu'un petit peu, Fulgence. Le Temps des Framboises est signé par le cinéaste Philippe Falardeau, rien de moins, qui, je vous rappelle, a écrit Monsieur Lazare, The Good Lie, avec Reese Witherspoon, hein, la grosse célébrité hollywoodienne, Kangourama, La Moitié Gauche du Frigo, et je peux vous en passer, Gildor s'en va en guerre, ou Gilbert s'en va en guerre avec Patrick Huard. Il a eu plusieurs prix, hein, ce cinéaste québécois qui nous vient de Gatineau, plusieurs prix, plusieurs nominations. Donc c'est sa première série de télévision, en collaboration avec la très prisée Florence Lompré, qui a écrit, elle, M'entends-tu et Audrey Revenu. Je vous rappelle, Audrey Revenu a reçu plusieurs prix et statuettes au dernier gala des prix Gémeaux. Et également Suzy Bouchard, qui elle a écrit L'œil du cyclone, qui est une autrice aussi très demandée. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est celle d'Elisabeth, mère de deux garçons, qui hérite de la ferme familiale à la suite de la mort subite de son mari par un infarctus. Elle se retrouve donc à faire face seule à ses deux adolescents qui se cherchent et qui semblent bien perdus, oui, à une belle famille envahissante et qui s'ingère dans ses affaires. Et elle va devoir aussi gérer donc, sans expérience aucune, hein, l'exploitation agricole, tout en composant avec les travailleurs saisonniers d'Amérique latine.
Est-ce qu'il avait le choix? Il n'avait pas le choix.
Il devait se lancer,
le papa vient de partir, voilà.
Et puis, oui, il faut qu'il prenne la
relève.
Exact, et puis c'est un scénario donc, du milieu rural, c'est intéressant. Et c'est une série donc, qui mêle humour et drame. Alors il y a des moments dramatiques, mais il y a beaucoup d'humour aussi dans cette série, d'où je pense l'écriture de Florence Lompré. Alors, et donc celle de Suzy Bouchard, et qui part aussi des plans larges ou rapprochés de la nature rurale, avec un plan immense sur les insectes, sur vraiment l'image photographique donc de la nature rurale, et une trame musicale bien singulière qui montre donc l'approche du cinéaste Philippe Falardeau. Alors ce dernier a d'ailleurs expliqué en entrevue en ces termes, ma façon de me repérer pour faire cette série, ça a été de dire à tous mes collaborateurs, on fait un film ici, pas une série. On l'approche comme un film. Alors, et de soutenir aussi, on n'est pas toujours obligé d'avoir un cadavre dans le fossé pour créer une tension dans une série. Ça n'a pas besoin de se passer dans un contexte d'urgence ou de mystère absolu pour soutenir l'intérêt du spectateur. Ben écoutez, ça marche, sa formule. La première saison a été sélectionnée et présentée à la Berlinale en hiver, en Allemagne, sous le titre d'ailleurs de Last Summer of the Raspberries, en février dernier. Puis au festival Sérimania, sélectionné aussi en France, où elle a été bien accueillie. Et dernièrement, Fulgence, devine, il y a à peine une dizaine de jours, la série a atteint le succès où? Eh ben en Corée du Sud. La dramatique a reçu d'ailleurs le prix de la meilleure mini-série au 17e Séoul International.
Donc, tu fais le point en même temps.
Awards.
Tu fais le point en même temps avec Extraordinary à Tornewu, quoi.
Eh ben voilà, tu me devances un petit peu, mais je n'ai pas fini.
Ouais, vas-y, on t'écoute, Myriam.
T'es gourmand. Alors, c'est l'actrice Sandrine Bisson.
Oui.
Fétiche dans la trilogie de Ricardo Trogi. Tout le monde a certainement vu au moins une de cette trilogie avec 1987-1991. Eh ben, elle est l'actrice fétiche de Ricardo Trogi qui défend donc le rôle d'Elisabeth dans cette série. Elle a aussi, et je le souligne, remporté la semaine dernière le prix du meilleur premier rôle féminin au 37e gala donc des prix Gémeaux. Voilà une série qui fonctionne, hein, la recette marche bien.
Elle bouscule cette série-là.
Oui, alors il y a aussi Micheline Lanctot, bien sûr, qui est là. La grande Micheline Lanctot, Edison Ruiz et Paul Doucet qui font également partie de la distribution de cette série. Donc c'est un drame familial avec de la détresse psychologique, de la relation entre une mère et ses deux fils adolescents, de la surdité, de la résilience, de l'humour avec le contact de ces travailleurs américo-latinos qui viennent travailler donc dans la ferme. Le temps des framboises se dévoile petit à petit à travers les épisodes. Alors c'est une série qui comprend 10 épisodes d'environ 45 minutes.
Oh.
Elle est disponible, oui, elle est disponible uniquement sur la plateforme du club Illico. La deuxième saison, messieurs, est déjà confirmée, et mesdames. Donc, comme notre série a été récompensée en Corée du Sud, et comme tu l'as dit tout à l'heure, en passant par là virtuellement,
oui,
je me suis accrochée à l'écho d'une série qui nous vient de là.
Quand j'ai vu, Myriam, j'ai reçu ton texto et puis j'ai vu le titre, je me dis Extraordinary à Tornewu, j'ai entendu parler de ça. Bon, effectivement, je ne l'ai pas regardé. Hein. Non, moi je.
Non, toi tu juste entends parler.
Voilà.
Alors, donc, Extraordinary à Tornewu déclenche un débat en Corée du Sud.
Ah ouais.
Alors, c'est une série sur une avocate autiste qui suscite donc une grande polémique au pays. En passant, c'est devenu la série non anglophone la plus regardée de la plateforme de streaming Netflix depuis plus d'un mois.
Oui.
Ça fait un mois maintenant qu'elle est au top, donc des séries non anglophones, suivant les traces d'ailleurs de l'autre phénomène sud-coréen, Squid Game, hein, le jeu des calmars. On en avait parlé au Emmy Awards. Alors l'histoire, c'est quoi? On suit le parcours d'une avocate débutante autiste qui a un quotient intellectuel élevé et dont le trouble l'aide à élaborer des solutions brillantes à des casse-têtes juridiques. Mais son handicap la plonge souvent dans des situations d'isolement social et d'exclusion. Alors on y voit donc l'avocate Woo Young-woo présenter des signes visibles de l'autisme, comme l'écholalie apparemment, qui est une répétition précise des mots ou de phrases, souvent en dehors de leur contexte, ce qui fait qu'on le voit qu'elle a un handicap, on le voit qu'elle a un problème. Alors, l'actrice principale Park Eun-bin, 29 ans, qui a recueilli des critiques très élogieuses, rapporte avoir d'abord hésité à accepter ce rôle, consciente de l'influence que ça pourrait avoir, donc la série, sur la perception des personnes autistes. Effectivement, parce que les gens, qu'est-ce qu'on pense des autistes? Qu'est-ce que tu penses au premier abord, toi, des autistes? Hélas, malheureusement, Fulgence, on a des préjugés, n'est-ce pas?
Oui, il y a des gens qui ont des... Moi, personnellement, je n'ai pas des préjugés. J'ai l'impression qu'ils sont plus intelligents que moi.
Oui, oui.
Quelque part.
Malheureusement, les gens pensent souvent « Ah, c'est comme un handicapé mental, un arriéré mental. » Malheureusement, c'est ce qu'on utilise souvent dans les préjugés, dans l'approche qu'on a d'un autiste. Hein.
Oui, mais parce qu'ils n'agissent pas comme nous, alors on les voit autrement.
Exact. Alors, elle a dit qu'elle a hésité à accepter ce rôle parce qu'elle ne savait pas comment l'aborder, la responsabilité qu'elle allait devoir porter. Mm-hmm. Donc, elle dit « J'ai senti que j'avais une responsabilité morale en tant qu'actrice. Je savais que la série allait inévitablement avoir une influence sur les personnes autistes et leurs familles. » Donc, alors c'est une série qui est très émouvante. Hein. La série a déclenché un débat de fond sur l'autisme en Corée du Sud. Pourquoi? Parce que des personnes atteintes d'autisme et leur entourage disent se sentir invisibles dans la société. Alors en Corée du Sud, certaines associations, même et familles, comptent des personnes autistes, qualifient la série de pure fantaisie, disent-ils, et considèrent que ce personnage n'est pas crédible. Et pourtant, et même pour plusieurs familles, d'ailleurs, qui ont continué donc cette critique de la série, ils disent que quand un enfant est atteint du spectre autistique, réussir comme l'avocate dans cette série-là tient de l'impossible. Ça serait comme décrocher, disent-ils, une médaille olympique en cyclisme sans avoir appris à marcher. Hein. C'est un peu une merde.
Il y a un problème. L'autisme, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs sortes de tous. Même celui, comment il s'appelle, le patron de Tesla, comment il s'appelle?
Elon Musk?
Oui, c'est un autiste.
Ah
ouais, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai l'impression qu'ils sont plus intelligents que moi.
Oui, exactement, mais c'est ce que vont expliquer les psychiatres. C'est pour ça qu'il y a un débat entre la société, les gens qui ont des familles, donc comme ça, et les médecins. Et pourtant, donc, selon la professeure psychiatre Kim Jong, le personnage du maître Wu est sans contexte un personnage fictif et dramatique, mais assez plausible, elle dit. Elle explique qu'environ un tiers des personnes, on va en apprendre un peu, un tiers des personnes présentant un trouble du spectre autistique ont une intelligence moyenne ou supérieure à la normale.
Ouais.
Et peuvent ne pas présenter de, pas présenter de caractéristiques
c'est le cas
autistiques
d'Elon Musk.
Visibles.
Oui, oui, c'est le cas d'Elon Musk.
Et voilà. Mmh. Alors, ou même réaliser qu'elles sont atteintes. Parce qu'il paraît qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont atteintes
c'est
de ce spectre-là.
C'est ça. Mmh.
Alors, et plusieurs médecins s'accordent donc de dire que le grand public, malheureusement, considère l'autisme comme un trouble qui implique une grave déficience intellectuelle, que c'est des gens donc, qui n'ont pas de développement intellectuel, ce qui contribue, à ce qu'il paraît, à un manque général de prise en charge à l'avance. Parce que si on prend en charge ces personnes à l'avance, en sachant au départ ce qu'ils ont, eh ben, on peut les préparer à vivre correctement et convenablement dans la société. C'est très intéressant.
Et surtout, alors, il ne faut pas fausser les traitements. Hein.
Voilà, alors des diagnostics effectués plus tôt, disent-ils, pourraient permettre de prévenir d'énormes douleurs et rendre autonomes des personnes atteintes d'autisme, voire même pouvoir leur donner des relations sociales et amoureuses.
C'est ça.
Alors, c'est incroyable. Extraordinary Attorney Wu.
J'adore le titre.
Ouais,
ouais. Eh oui, c'est pareil pour le temps des framboises. Voilà, c'est notre série nationale qui est devenue maintenant internationale.
Internationale. Alors, c'est une série de 16 épisodes à visionner sur Netflix. Une deuxième saison est déjà confirmée pour 2024 à ceux qui sont intéressés.
Ils vont faire craquer toutes les caisses là avec le temps des framboises parce que ça parcourt le monde entier, hein.
Oui, c'est un succès fou, hein.
Mais
alors,
avant
j'espère que TVA un jour va nous permettre de le voir.
Sans payer. Il faut pas toujours nous faire. Ils font comme Netflix et autres. Il faut payer pour pouvoir voir ce genre de séries. Mais comment ces Coréens là avec leur série non anglo ont pu conquérir? Je sais pas. C'est suivi partout dans le monde ou bien c'est seulement
dans le monde entier.
C'est sous-titré,
Sous-titré, ben, comme tu sais, l'histoire de Squid Game qui n'a rien à voir, mais c'était aussi suivi par la planète, hein, Squid Game. C'est pour ça qu'ils étaient attendus à gagner des prix au Emmy Awards.
C'est pas vrai.
Les gens regardent sous-titré maintenant. Ben écoute, les gens, comme on a parlé, tu te rappelles de l'autre fois du VO et du VF, hein, sous-titrage en français ou la version française.
Oui.
Mais la génération maintenant, les générations qui arrivent, préfèrent voir en VO avec des sous-titres et voir l'authenticité de l'acteur, au fait, du rôle que joue l'acteur avec sa vraie voix, avec sa vraie intonation. Donc, plus de succès maintenant, ce genre de...
Et puis la nouvelle génération ne se met plus devant les télés, alors ils sont tout le temps avec les appareils électroniques, ils marchent, ils regardent les images, et puis ils écoutent des films dans les parcs en été, quand il fait beau. Alors, Myriam, n'arrête pas de nous surprendre avec ce genre de série, tous les mardis, Escale 16-17. Merci beaucoup à toi, et on se revoit le jeudi pour la chronique sportive.
Oh oui, sans doute, c'est un rendez-vous.
À bientôt.
À bientôt, bye.
Bye-bye. Alors, Myriam vient de nous faire découvrir deux nouvelles séries, la série Le Temps des Framboises et la série coréenne Extraordinary Attorney Wu. Maintenant, c'est la chronique culture avec Céline Laberge qui va nous parler des incontournables des journées de la culture. Il y a deux nouveaux albums qui viennent de sortir, qui va nous faire découvrir celui de Grand Corps Malade et puis celui de Daniel Lanois, ce franco-ontarien. Et la disque qui dévoile des nominations d'artistes en compétition pour le prochain gala. Bonjour Céline Laberge.
Bonjour Fidjance.
Alors, c'est parti, je te laisse la parole et puis bon, ben, tu nous fais découvrir ce que tu as nous fait découvrir.
Ah, il y a tellement de belles choses. Nous allons vraiment être gâtés en fin de semaine pour les activités gratuites. Tu sais, comme j'aime bien rappeler, les événements gratuits à prix plus réduit pour respecter les budgets de tout le monde.
Oui.
Donc là, la 26e année des journées de la culture, vendredi, samedi, dimanche.
Oui. Une fin de semaine entière.
Oui. On parle, Fulgence, d'un millier d'activités gratuites partout au Québec.
un millier d'activités partout au Québec.
Gratuit. Wow, voilà, alors, on n'a pas d'excuses. Hein? Je voudrais juste rappeler que les Journées de la culture sont organisées par Culture pour tous, oui, un organisme qui s'est donné pour mission de faire connaître et aimer la culture.
Oui.
Il y a énormément d'activités. Tantôt, je vais donner le lien pour aller voir ça. Mais il y a une activité particulièrement que je voulais souligner, et c'est une nouveauté cette année. Les Journées de la culture proposent de mettre en lumière chaque année une personnalité dont l'héritage nous a été légué, oui, et contribue à définir notre identité culturelle.
Ah bon?
Cette année, donc pour la première fois, il y aura ces activités hommages, et ce sera un hommage au peintre Jean-Paul Riopel.
Ah.
Parmi les activités très originales...
C'est un nom bien connu. C'est un nom bien connu quand même dans les milieux des arts.
Oui. Et il y a plusieurs régions qui vont offrir une initiation à la technique. Une des techniques qui était beaucoup utilisée par Riopel, c'est la technique du pochoir avec la peinture en aérosol. Alors, il avait utilisé ça pour son impressionnante œuvre qui s'appelle « Hommage à Rosa Luxembourg ». Oui. Luxembourg, pardon. Donc, il y a des activités partout. Hein. Il y en a trois, un millier, je ne peux pas en parler, mais c'est la 26e édition des Journées de la culture, vendredi, samedi et dimanche. Mm-hmm. Des sorties pour toute la famille, des circuits passionnants à découvrir.
Une fin de semaine bien remplie. Hein.
Ah oui. Le site, c'est journée au pluriel de la culture, en un mot, .qc.ca.
.qc.ca.
Journée de la culture, donc oui, j'invite vraiment les gens à aller regarder ça, indépendant de leur région, donc ils peuvent voir exactement ce qui se passe chez eux.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans toutes les ruelles, dans tous les recoins du Québec, de la belle province.
Oui, et à Montréal, dans énormément de quartiers.
Oh oui, énormément de... Ouais, tout le monde sait. C'est surtout que ça fait longtemps que ça existe. Hein. C'est bien connu maintenant.
Oui, et c'est organisé par les quartiers, par les citoyens, par les regroupements d'artistes. Donc, c'est vraiment des choses qui sont enracinées.
Oui.
Et c'est vraiment l'occasion de faire des belles découvertes.
Oui. J'en ai parlé ici souvent, d'ailleurs, au moment où il y avait la période de candidature, comment soumettre son projet, que si on veut participer, comment ça se passe, tout ça. J'en parlais tout le long de l'année, quoi, sur les ondes de Canal M. Voilà.
Ben, y a de quoi.
Il y a de quoi parler. Mais maintenant, on va parler un peu des deux nouveaux albums que tu nous fais découvrir.
Deux albums majeurs.
Ouais.
Des albums attendus.
Deux grands artistes. Moi et au fait, grand comme malade que je connais depuis fort longtemps, mais Daniel Lalois, je l'ai découvert avec son album Sunny Heavy qui est sorti en 2021. Là, il nous sort encore un autre piano player. Allez, vas-y, on t'écoute.
Grand corps malade, il vient de lancer son 8e album intitulé Éphémère.
Oui.
Et on doit souligner que c'est un album qui a conçu et enregistré avec deux rappeurs, le rappeur français Ben Mesué,
oui,
et le rappeur franco-rwandais Gaël Faye. J'espère que je prononce bien.
Est-ce que c'est... moi, je l'appellerais le slam. C'est un poète. Hein?
Ouais.
Oui. Il est beaucoup plus poète que rappeur. Oui.
Ben, il se définit comme slameur.
Ah fait, oui, c'est slameur. C'est un poète slameur.
Ouais.
J'adore sa plume. Oui. Je l'ai découvert à la Grande Librairie, l'émission littéraire qui passe sur France 2, qui est diffusée aussi sur TV5 Monde, TV5. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce jeune homme-là, oui.
T'es d'accord, Féjean, je pense qu'on peut dire que quand on écoute une chanson du Grand Corps Malade, c'est un artiste tellement à part que les chansons continuent à résonner très, très longtemps après les avoir écoutées.
Ah ouais?
Hein? C'est oui, un grand. Malheureusement, on ne sait pas, on ne connaît pas encore les dates des prochains concerts au Québec. On va surveiller ça.
Je ne sais pas. J'ai essayé de fouiller un peu quand j'ai écouté un peu quelques pièces de ce nouvel album éphémère. Et puis d'abord, j'ai deux chansons sur ma clé USB qui est dans la voiture. J'ai découvert un peu ce trio dont tu viens de parler. La voix de Ben Mazoui et puis la voix de...
Gaël Faye.
Et puis voilà, Gaël Faye et puis Grand Corps Malade. Mais ce que j'aimerais encore moi entendre de lui, c'est un autre duo avec Souleymane Diamanka. Alors là,
oui,
c'est ce que j'attends. Depuis Liverpool de Souleymane Diamanka, ils n'ont plus rien fait ensemble.
Alors, il t'entend peut-être.
Ouais, peut-être, oui. Alors, je te laisse partir.
Un autre album important. Tu disais très bien en introduction que c'est un artiste, c'est incroyable. On ne le connaît pas beaucoup au Canada. C'est un Canadien et c'est un artiste d'une renommée internationale.
Oui.
Alors, on va essayer de le faire découvrir un peu. Donc, on parle de Daniel Lanois.
Oui.
Son nouvel album s'appelle Player Piano. Je dois dire que Daniel Lanois, c'est un producteur de musique, un chanteur, un musicien, un auteur-compositeur. Donc, oui. C'est un artiste très complet.
Oui.
À titre de producteur, il a une feuille de route vraiment impressionnante. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a cette feuille de route.
Ah non. Quand j'ai vu sa biographie, je me disais, « Ouh, celui-là, pourquoi il est si peu connu ici ?»
Ouais. On voit qu'il est en demande et apprécié par les plus grands.
Oui.
Donc, il a fait 50 albums avec, entre autres, U2, Peter Gabriel, Neil Young, Willie Nelson, Bob Dylan, Nick Cave, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, ça donne une idée. Le monsieur est bien apprécié dans le milieu.
Ah, ouais.
Alors, Player Piano, c'est son 12e album. Comme le titre le dit, c'est un album de musique instrumentale. Mmh. On dit que c'est d'une beauté troublante. Est-ce que tu me permets de parler ici d'une petite anecdote qui illustre bien qui est ce personnage de Daniel Lanois? On a quelques secondes?
Oui, on a encore. Oui, ça va.
Alors, avec son parcours dont je viens de parler, je trouve qu'il demeure un des artistes les plus humbles et professionnels que je connaisse. Et je donne un exemple.
Oui.
Il y a 10 ans, il faisait partie d'un spectacle concept, tu sais, avec plusieurs artistes pour souligner la culture franco-ontarienne.
Oui.
Le spectacle se passait dans la région d'Ottawa. Daniel Lanois faisait partie de la distribution, c'était une des vedettes. Et la veille, il était en studio d'enregistrement à New York et il devait prendre l'avion en soirée pour se rendre pour le spectacle le lendemain à Ottawa.
Oui.
Mais, mauvaise météo, tous les vols sont annulés pour plusieurs heures. Donc, il ne pourra pas participer au spectacle. On appelle ça un cas de force majeure.
Oui.
C'est la grande déception pour tous les organisateurs. Finalement, à la surprise de tous, il arrive à la salle de spectacle en matinée le jour du spectacle.
Wow!
Il avait décidé de prendre un taxi limousine de nuit, New York-Ottawa, pour pouvoir dormir un peu et de pouvoir être capable de se rendre au spectacle et de faire sa prestation.
Wow.
Alors, ça m'a toujours marqué.
Oui.
C'est professionnalisme.
Oui. Non, ça c'est quelque chose. Mais toi, tu étais dans les parages. Comment se fait-il que... Oui?
Oui, je travaillais à la production de ce spectacle et à la captation télé. Donc, j'ai eu la chance de le côtoyer.
De le côtoyer, voilà. Merci, ouais. Voilà, effectivement. Bon. D'accord.
C'est quelqu'un qu'on n'oublie pas.
Ah non. Moi, depuis que je l'ai découvert avec son album Sun Heavy, là, vraiment, c'est... Et puis, ce deuxième-là que je suis en train d'écouter, je n'ai pas encore tout écouté, mais... Ah, waouh. La pièce O, simplement, l'O, O-E-A-U, là, ça m'a scotché tout de suite, quoi. Je me suis dit, waouh, ce monsieur-là, je... Ah non, on va jouer souvent ici. Je ne sais pas si Mathieu a une de ses pièces quand on aura fini. À la fin de l'émission là-bas, peut-être qu'on peut passer une pièce de lui ou bien quelque chose comme ça.
Voilà. D'accord.
Je vais voir. Sinon, prochainement, on va jouer quelques pièces de Daniel Lanois pour qu'on puisse le découvrir. Alors, maintenant, tu vas nous faire découvrir le dévoilement des nominations d'artistes en compétition pour le prochain gala.
Oui, là, on revient avec des artistes du Québec. Alors, en tête des nominations pour le 47e gala de la disque, il y a Hubert Lenoir, Lisa Leblanc, les Cowboys Fringants. Ils ont tous 5 nominations chacun. Ils sont suivis de près par les deux frères, Cœur de Pirate, Jay Scott, Patrick Watson, Roxane Bruno et Sal Barbe, qui ont chacun 4 nominations.
Okay.
Le public peut se rendre sur le site adisque.com, adisq.com, et voir toutes les nominations.
Oui.
Et plus que ça, les gens peuvent entendre les extraits musicaux de chacun des artistes.
Ah, c'est génial.
C'est très intéressant. Alors, cette année, il y a un record. 250 albums ont été recensés, 88 spectacles et 91 vidéoclips.
OK. Oui.
En allant sur le site, on peut écouter des extraits de tout ce monde-là. Je voudrais parler d'une nouveauté importante cette année.
Oui.
À chaque année, la disque revise ses règlements, tout ça. Donc, il y a eu la création de la catégorie Album de l'année langue autochtone. Parce qu'il y avait suffisamment d'albums cette année pour pouvoir ouvrir cette catégorie.
Cette catégorie, c'est la première fois.
Oui. Et dès maintenant, le public peut voter jusqu'au 17 octobre pour 5 catégories. Ils vont sur le site palmarèsadisque.ca, donc palmarèsadisque dans un mot, .ca, et tout le monde peut voter. Alors, il y a les catégories interprète féminine de l'année, interprète masculin de l'année, groupe audio de l'année, chanson de l'année, et artiste de l'année ayant le plus rayonné sur le web. On est rendu là. Alors, Louis-José Houde animera pour une 17e année consécutive la cérémonie du gala qui aura lieu le 6 novembre.
C'est devenu sa maison maintenant, lui. Hein.
Pardon?
Il nous reste 2 minutes, s'il te plaît. Il dit c'est devenu sa maison maintenant, lui.
Oui, oui. Donc, le 6 novembre, il s'est diffusé à Radio-Canada et le public peut assister au gala. Il faut qu'ils aillent se procurer les billets sur Place des Arts. Ouais. Éventuellement, je parlerai des artistes en nomination dans la catégorie, mais je voudrais prendre le temps qui reste pour parler de deux événements importants à Montréal.
Rapidement, oui. Mmh.
Ce soir, j'ai la chance d'aller au Théâtre du Nouveau Monde voir La Nuit des Rois, un classique de Shakespeare qui a été traduit, adapté par Rebecca Desrapes et Frédéric Bélanger.
Oui.
Ça va être au TNM jusqu'au 15 octobre. Et un petit détail, les tarifs sont réduits à partir de midi, la journée de la représentation. Les billets sont à moitié prix.
Wow.
Donc, c'est jusqu'au 15 octobre.
Et la deuxième surprise?
La deuxième surprise, Théâtre Prospero,
oui,
sur la rue Ontario, dans l'Est. Et cette fois, c'est Mademoiselle Agnès. On est encore dans les grands, grands classiques. Alors, c'est une adaptation du Misanthrope de Molière.
Mmh.
Et parmi la distribution, il y a entre autres l'excellente Sylvie Drapeau. Ben alors, voilà, Fulgence, est-ce que j'ai encore du temps?
Non, c'est fini.
Non?
Oui, c'est fini. Allez, Céline, merci beaucoup. On se revoit mardi prochain.
À la semaine prochaine.
Oh oui, oui. Écoute bien, c'est du Lanoise, ça, Daniel.
Oh!
Merci à toi, et puis on se retrouve...
Merci.
Le mardi prochain. Merci, Céline.
Écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Ah ouais, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, oui, 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 c'est toujours Escale 16-17 qui continue. Mon invité Frédéric Palardi, qui est le directeur général de l'exposition En Camp Parle-moi d'amour, PMA, la 24e édition. C'est la raison pour laquelle on l'a invité pour venir nous parler de cette exposition En Camp. Comment ça se passe? Ça a commencé depuis le 15 septembre, ça va finir à la fin du mois de septembre, si je ne me trompe pas, à moins qu'il y ait une prolongation. Bonjour Frédéric Palardi.
Bonjour Fulgence.
Comment va-t-il? Il va bien. Est-ce qu'il y a un prolongement ou bien ça va juste à la fin du mois, c'est fini?
Non, ça finit le 29, donc ça finit jeudi.
D'accord, le jeudi. Après-demain.
Oui, après-demain.
Alors, comment se passe l'exposition depuis le 15?
Alors, ça, on a ouvert en grande pompe, en fait. Peut-être pour replacer un peu les téléspectateurs, mais les gens qui nous écoutent, voilà. Donc, Les Impatients, c'est un organisme qui vient en aide aux gens qui ont des problématiques en santé mentale.
Oui.
Et ce qu'on fait, c'est des ateliers de création artistique.
Oui.
Alors, donc, on existe depuis 30 ans maintenant.
Oui.
On est dans 22 sites à travers le Québec. Et bon, principalement à Montréal, mais on a des sites aussi à Shawinigan, Drummondville, Joliette, etc., donc en région. Et on se diversifie de plus en plus avec les jeunes et les cas moins lourds en santé mentale.
Oui.
Donc, dépression, etc. Mais revenons maintenant à l'Encan. C'est une des principales, en fait, c'est la principale levée de fonds des Impatients.
Mm-hmm.
Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une centaine de participants à nos ateliers, une centaine d'artistes en art contemporain de très haut niveau. On parle de Marc Séguin, Caroline Monet. Donc, on est vraiment choyé dans les artistes qui contribuent année après année. Et ensuite, il y a un autre volet, c'est une centaine aussi d'œuvres de dons de collectionneurs. Donc, de dons de collectionneurs, par exemple, aussi élevés que RioPet.
Oui, OK.
Tout ça ensemble, sans distinction, toutes les œuvres sont mises à l'encan, qui est un encan virtuel, donc en ligne.
Oui.
Et toutes les œuvres partent à 50 $ que ce soit un RioPel ou un impatient,
oui.
Et on laisse monter les enchères.
OK. Ça veut dire et que demain, si oui. Monsieur, madame, tout le monde se déplace là, il peut dire, s'il dit, moi je veux cette œuvre-là, 50 $ s'il n'y a personne d'autre qui se lève pour dire, bon, 60, bon, il va aller avec l'œuvre à 50 $
Exactement.
Wow.
Oui.
OK.
Heureusement pour nous, les œuvres montent. Les mises montent, oui. Parce que c'est avant tout une campagne de levée de fonds.
Oui.
Mais il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les prix.
Mmh, mmh.
Ça va de 50 $ en valeur, ça va de 50 $ à 50 000 $
Oui, à 50 000 $
Oui.
Wow. Et oui. Cet argent est pour les impatients, les organismes qui gèrent bien. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de ce... quel est votre rapport avec les impatients? Et puis, bon, depuis combien de temps vous travaillez avec les impatients?
Alors, je vais faire une histoire courte, mais les impatients, c'est fondé par ma mère.
Ah.
Qui avait une galerie d'art contemporain à l'époque, il y a 30 ans.
Ah.
Faut savoir qu'il y a 30 ans, la santé mentale et les arts, disons que c'était pas très, pas très bien vu, mais c'est un mauvais choix de mots, disons que c'était pas reconnu.
Oui, voilà. Oui.
Et alors qu'aujourd'hui, toutes les études le montrent que créer, ça fait du bien. Alors, nous, on le fait depuis 30 ans. Moi, je suis à la tête, je suis avocat à la base, donc
oui,
aucun
oui,
lien.
Oui.
Et j'ai fait mon bout de chemin dans la vie et aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Alors, je suis à la tête des impatients. Je travaille fort, mais on est tellement bien récompensé par le bien qu'on fait.
Oui. Bon, ce sont des organismes. Quels sont ceux qui vous viennent? Quelles sont les collaborations que vous avez au niveau des différentes communes ou bien des différentes villes ou bien des différents gouvernements? Quelles sont les aides que vous recevez?
Bon, nos ateliers...
Si vous en recevez.
Oui, on en reçoit. On n'a pas le choix. On a un budget d'1,6 million.
Oui.
Alors, mais on est de plus en plus autonome.
Oui.
C'est un des objectifs. Alors, nos ateliers, comment ça fonctionne, c'est qu'on est en collaboration toujours avec les hôpitaux.
Oui.
Donc, le département de psychiatrie.
Oui.
Nous, on offre des ateliers clés en main.
Oui.
C'est-à-dire que, par exemple, à Joliette, on va trouver l'artiste, le site, on paie tout. Donc, c'est nous, on est autonome. Et ça va être l'hôpital ou la fondation de l'hôpital qui vont payer pour nos services.
Ah, donc, okay. OK.
Oui,
je comprends.
Et on est en mesure aujourd'hui de faire un peu de profit, entre guillemets, avec ces ateliers-là.
Oui.
Pour faire fonctionner la machine en général. Parce que c'est toujours beau d'offrir des ateliers, mais... Il faut aussi payer mon salaire, le salaire des gens en communication.
De vos collaborateurs, de toute l'équipe, quoi, voilà. Tous ceux avec qui vous travaillez, voilà, qui se sont engagés, qui sont engagés auprès de vous pour continuer l'œuvre de votre maman.
Voilà. Et donc ça représente plus ou moins un tiers de notre financement, ce qui est déjà très bon, mais on développe beaucoup, beaucoup. On est très, très... Je dis souvent, malheureusement, on est dans la bonne business en ce moment. Hein. Vous savez, la santé mentale, suite à la COVID, mais même avant la COVID, c'est un enjeu majeur de société. Et on offre des ateliers de plus en plus diversifiés, de plus en plus. On va offrir bientôt des ateliers avec les militaires, avec la police de Longueuil. On offre, on diversifie dans le bon sens.
Oui.
On essaie de faire de plus en plus avec la DPJ, de plus en plus vers la prévention.
Vous savez quoi? On peut parler maintenant de santé mentale de nos jours sans avoir honte, parce que c'est un problème, c'est devenu un problème de société.
Oui.
Oui, ça va. Allez-y.
Non, mais je voulais dire que encore plus avec la COVID, maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'avoir un peu d'anxiété ou de l'angoisse.
Oui.
Donc, il n'y a plus personne qui qui se gênent de dire qu'ils sont
C'est ça, on peut tous en parler. Est-ce que Frédéric avait à réfléchir qu'à un moment est parti, est-ce que je continue l'œuvre de moment ou bien je veux pas entendre parler de ça ou bien ok, j'ai tellement appris auprès d'elle que je continue. Okay, ça a été difficile pour vous de dire je continue l'œuvre de ma mère?
Je ne dirais pas difficile. En fait, comment ça s'est passé, c'est que j'étais en période de réflexion.
Mm-hmm.
J'ai eu, dans le bon français, j'ai eu un package d'une entreprise.
Mm-hmm.
Donc, j'avais 42 ans. Et en fait, au départ, j'étais très réticent parce que j'étais déjà sur le conseil d'administration.
Oui.
Des impatients. Mm-hmm. Et je pensais être capable de mieux contribuer en ayant une grosse job, comme on appelle.
Oui.
Je suis avocat de formation, j'aurais pu avoir des gros jobs payants.
Oui.
Mais quand on m'a vraiment offert la job, ben il faut dire que ma mère est restée très longtemps. Elle travaille encore 2 jours semaine.
Oui.
Donc la transition s'est faite de façon assez naturelle. Il faut dire aussi que je suis né dedans. Hein. Quand on opère un OSBL, c'est pas le genre de travail qu'on laisse au travail. Et c'est tous les jours, tout le temps.
Est-ce que la piqûre que votre mère vous a donnée, vous la transmettez aussi à vos si vous avez des enfants, est-ce que vous les avez? Vous voyez un peu pour vous voir quand Frédéric ne sera plus là, qui va prendre la relève.
Oui. Malheureusement, ils sont un peu jeunes, mais ma fille de 19 ans, mais non, ils savent tout ce qui se passe aux impatients.
Oui.
Que ce soit par moi, ma grand-mère, en fait, toute la famille est impliquée. Hein, parce que,
D'accord. Oui,
j'ai un frère et une sœur qui sont très impliqués également.
Oh, génial, merci à toute la famille Palardi. Non, mais sincèrement, moi, on revient à l'Expo en camp, voilà.
Oui.
24e édition. Comment ça? Mais c'est... À un moment donné, mais Frédéric va se dire, oh, moi, je suis fatigué, là, je ne vais plus faire d'exposition en camp, là, mais non.
La veille, comme ça, je vais vous donner un exemple. Hier soir, à 19h, j'ai appelé Amélie, qui est en charge de l'exposition.
Oui.
À 7h le soir, puis je vous avoue qu'elle était un peu découragée.
Ah, mon Dieu!
Oui.
Qu'est-ce qui la décourage, Frédéric?
Ben, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Hein. C'est 300
heures. Je sais,
heures,
oui. Vous imaginez, nos publics qui allons nous déplacer, qui nous déplaçons pour voir les œuvres, on ne voit même pas tout ce travail que vous faites en arrière.
Non, et c'est la même chose dans tous les événements. Hein. Mmh. Vous saviez juste rejoindre 300 personnes, aller chercher des œuvres, les faire encadrer, les monter, mais vous pouvez vous imaginer, si je vous envoie un courriel, puis genre, vous êtes un artiste,
oui.
Je vous envoie un courriel, je vous dis, est-ce que vous voulez participer à Parlement d'amour? Là, vous répondez oui.
Oui.
2 semaines plus tard, pas de nouvelles.
Voilà.
Alors, on recommence. Fulgence. Oui, ah, je vous avais un peu oublié, mais oui. Comment ça fonctionne déjà?
Oui.
Et là, vous pouvez... Faites ça fois 300.
Je sais de quoi vous parlez, à peu près.
Oui. C'est aussi la beauté, parce que quand on arrive à la fin,
oui.
Le vernissage, on avait 320 personnes qui se sont déplacées.
Mm-hmm.
Demain, on attend au moins 200 personnes.
Wow.
Qui devraient être très festifs. Demain, c'est la soirée en camp à la criée.
Oui.
Donc, ça devient très, très festif.
Comme on le fait au marché de poissons.
Définitivement.
Ouais.
Et là, il y a des miseurs, puis bon, il y a du vin, de la nourriture, les gens passent une belle soirée.
Oui.
Et il y a toujours certains miseurs qui le font pour la cause, d'autres qui le font pour avoir des deals.
Oui.
Donc des œuvres à rabais, mais ce mélange-là fait en sorte que ça fait de magnifiques soirées.
Oh, wow. Wow. Est-ce que vous. Oui, allez-y.
Notre commissaire priseur, c'est Jean-François Bellil, qui est le directeur du Musée d'art contemporain de Joliette.
Mm.
Donc, et je me dois de faire un petit placement commanditaire, Fulgence, parce que ça fait 8 ans que je suis à la tête, ça fait 8 ans que je cherche un présentateur officiel. 8 ans.
OK.
Que j'en trouve pas. Et là, pour la première année, j'en ai un qui s'est engagé pendant 3 ans, et c'est l'Auto-Québec. Alors, merci à eux, mais merci surtout, oui, à l'argent, mais merci d'être un très, très bon partenaire. Oui.
Ah non, mais ça, oui, profitez de l'antenne. Oh là non, c'est normal. C'est eux qui sont derrière. Voilà, l'Auto-Québec, oui.
Oui, mais je note, puis ma job est faite, là, il faut le dire, mais le niveau de partenariat pour des OSBL, c'est très important. Mmh. Il y en a qui donnent de l'argent, mais qui, des fois, c'est... sont pas de très bons partenaires, alors que l'Auto-Québec sont vraiment de bons partenaires.
Et s'il y a des gens qui aimeraient bien s'ajouter à l'Auto-Québec, ils sont les bienvenus?
Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. On est toujours à la recherche de commanditaires.
Oh, d'accord. Est-ce que Frédéric Palardy est satisfait de cette 24e édition?
Très satisfait de cette 24e édition en termes de qualité, en termes de comment ça se passe, en termes de mise en valeur des œuvres. Je vous avouerai que c'est un peu plus difficile au niveau de la fréquentation.
Oui.
Vous êtes dans le domaine un peu, vous savez que suite à la COVID, au mois de septembre, en culture, tout le monde sort en même temps.
Oui.
Alors, moi, juste moi qui est un directeur de l'OSBL, si je voulais, j'aurais pour aller à 3 événements par soir.
Oui.
Donc, c'est un peu normal que la fréquentation soit plus basse.
Oui.
Les mises sont très bonnes. On est rendu à 140 000 $.
Oui.
Et on le sait aussi par expérience.
Bravo. Oui.
Les gens attendent à la fin avant de miser. Donc,
et surtout, Frédéric, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine inflation. Hein.
Ah oui.
On est en pleine crise pour tout le monde entier est touché, toutes les populations, tout le monde est touché ici au Québec, au Canada aussi, à Montréal également. Et il faut se dire que s'il y a des gens, oui, bon, c'est pas bon, tout le monde qui peut se permettre d'acheter un tableau qui va jusqu'à 50 000, ça non, fait le salaire de certaines personnes annuellement. Voilà.
Ah oui, oui.
Voilà. Donc, au fait, bon, même si c'est, vous me dites 100 000, quelque chose comme ça, j'ai dit, waouh, les gens ont pu se déplacer. Et ils sont repartis avec des œuvres et ils ont misé. Et ça va permettre à vous et à l'équipe de bien gérer les activités des impatients, quoi.
Oui, c'est, comme je le disais tantôt, c'est un tiers du budget. Hein, donc, c'est majeur comme événement. Donc, et il ne faut pas sous-estimer le bienfait. Hein. Si vous êtes un participant un peu isolé dans la vie, vous venez à nos ateliers, vous créez une œuvre d'art.
Oui.
Et là, après ça, elle est exposée dans un site magnifique, à côté de Riopel. Vous savez le bien que ça fait, c'est extraordinaire.
Ça frappe, ça flatte l'ego, quoi.
Ben oui. On a un sentiment de fierté énorme. Les gens viennent avec leur famille, ils viennent montrer. Mm. J'ai une belle anecdote par rapport à ça. Il y a une participante à un moment donné qui m'a dit, Frédéric, les expositions par le mot d'amour, j'y vais à toutes les années et j'invite ma famille et je leur dis, je vous promets qu'aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de mes problèmes.
Oh oui.
Aujourd'hui, on va aller voir une exposition.
C'est ça, c'est le but. Alors, ça finit dans deux jours. Quel est le dernier message que vous avez lancé à ceux qui nous écoutent, là, avant que je ne vous laisse partir, Frédéric Palardy?
Oui, venez nous voir, il vous reste deux jours pour venir voir les œuvres. Sinon, allez sur le site desimpatients.ca, vous pouvez miser en ligne. Même si vous ne misez pas, vous pouvez regarder le travail en ligne, donc dans le confort de chez vous. 300 œuvres pour tous les goûts, tous les prix.
Oui. Et l'adresse?
200 Sherbrooke West.
Sherbrooke West, oui. C'est la salle polyvalente du cœur des sciences de l'UQAM.
Non, ça c'est la salle polyvalente maintenant. Mm-hmm. C'était l'an dernier, mais c'est dans le même secteur.
C'est dans le même secteur, de 200 rue Sherbrooke-Ouest à Montréal, bien sûr.
Oui, et sinon lesimpatients.ca, tout se retrouve sur lesimpatients.ca.
Merci avec toute l'équipe, votre maman et les frères qui sont impliqués aussi dans l'organisme des impatients. Oui. D'ailleurs, il va falloir que vous reveniez aussi pour parler uniquement des impatients. Parle-moi de vous, mais on va parler uniquement des impatients. Ça, c'est très impressionnant. Ça m'a beaucoup... je suis impressionné par cet organisme.
Quand vous voulez inviter moi, j'irai avec plaisir.
Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Palardy, directeur général de l'exposition En Camp Parle-moi d'amour, PMA, 24e édition de l'exposition. Et ça continue, ça se poursuit jusqu'au 29 septembre, c'est-à-dire après-demain. N'hésitez pas, c'est 200 rue Sherbrooke-Ouest à Montréal. Merci beaucoup, Frédéric Palardy, et au plaisir de vous réentendre.
C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Alors, vous avez écouté, hein, pour ceux qui ne sont pas encore passés à cette exposition, en Campal Mois d'amour, PMA, allez-y, c'est au 200 rue Sherbrooke-Ouest, ça finit après-demain. Oui, on n'a pas besoin forcément d'acheter une œuvre, voilà. Mais allez regarder un peu les œuvres des artistes de la relève auprès des artistes comme Riopel, pourquoi pas. Voilà, ça se fait. J'aimerais bien le réentendre ici, Frédéric Pallardy, pour nous parler des impatiences de cet organisme qui s'occupe de ces gens en difficulté, en souffrance de maladies de santé mentale. Alors, il y a quelque chose que je vais lire. D'ailleurs, j'ai écouté le message à la petite pause. Sous le thème Black and Blue 360 degrés, c'est l'événement principal qui se tiendra à la TOHU, Cité des Arts du Cirque de Montréal, le dimanche du 9 octobre à 22h, de 22h à 8h. Le lundi matin. Oh! De 22h à 8h le lundi matin. Voilà, c'est pas vrai. Ah, c'est sérieux, ça, alors.
Oui, c'est la nuit.
C'est la nuit. Voilà. Alors, pour son retour après 2 ans d'absence, le Black and Blue propose un concept circulaire pluridisciplinaire avec une centrale 360 degrés dans une salle immersive 360 degrés sur musique électronique. De DJ invité de multiples performances sous la direction artistique de Louis Guillemette, un artiste concepteur et professeur de l'École nationale de cirque ayant de nombreuses réalisations à son actif et est connu dans la communauté. Il est bien connu dans la communauté LGBT+, bien sûr, ça, il faut le dire, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ainsi, dans l'équipe de design et de production, Fred Gouin, qui sera la régie technique de Daniel Brazo aux éclairages. Ce sera spectaculairement. Courez la chance de gagner, c'est même, c'est là le but de se communiquer. Une série de 2 billets, je dis bien une série de 2 billets pour se faire. Écrivez à Heurciel, Heurciel, @outlook.com, votre nom, votre numéro de téléphone avant le 3 octobre à 15h. Je dis bien à 15h, avant. Ouais. Le 3 octobre à 15h. Ils vont annoncer les personnes gagnantes à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève le même jour à 17h. Cette émission passe après escale 16-17 chaque lundi sur les ondes de Canal M. Alors, n'hésitez pas, je redonne le courriel. C'est heurciel@outlook.com, votre nom et votre numéro de téléphone, avant le 3 octobre à 15h. Et les personnes gagnantes à l'émission. Hein? Oui, à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève, le même jour à 17h. N'hésitez pas, ne ratez pas cette opportunité. Je dis bien le dimanche 9 octobre de 22h à 8h, le lundi matin. Oh, c'est intéressant, je me dis, une série de 2 billets pour l'événement principal du festival Black and Blue. Voilà, c'est fait, je vais... Demain, je peux en parler encore, pourquoi pas, si j'ai un petit moment comme ça, quelques minutes, ouais, je reviens là-dessus. Voilà, c'est une manière de faire un clin d'œil à l'émission de mon collègue, Denis Martin Chabot. Il est là tous les lundis, après moi, c'est-à-dire à partir de 17h. Moi, j'ai fini à 17h, lui, il rentre en nombre, c'est du direct. Voilà, Mathieu, on a fini pour aujourd'hui ?
C'est tout.
C'est tout, merci à toi pour la belle régie. On se retrouve demain et on dit merci à Myriam Larache, à Céline Laberge et à notre invité Frédéric Pallardy. Et merci à toi Mathieu pour la régie, la belle collaboration. Et on dit merci à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Et on se retrouve demain sur les ondes de Canal M. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vos minutes et tendez les mains surtout à ceux qui sont dans le besoin. Je vous dis ciao et à demain. Et qui nous vient avec le bruit de son piano, de sa guitare, Antonio Jackson, The Wave, 94.7, 94 That 7. Ciao.